donc une réflexion donc, sur les moyens océanologiques, c'est l'ensuite, donc plus davantage, je pense, elle fait l'expérimental. Donc après, des aspects plus pratiques appliqués, on passe aux aspects plus conceptuels.
Philippe, vous allez faire une minute, si possible. Si on a des questions à la fin de votre présentation collective.
Je vais essayer de me tenir à 20 minutes. Il faut faire toujours rentrer les choses dans un chausse-pied, malheureusement. Enfin, avec un chausse-pied. Juste avant de commencer, puisque tu as évoqué la question de la flèche, on parlera un petit peu de manipulation de propagande. Il se trouve que tout à fait par hasard, j'avais sur la présentation une carte tirée d'un atlas allemand de la période des années 30. Je voulais simplement vous montrer aussi que la flèche, elle représente un déplacement, mais elle est aussi au service de la représentation symbolique de ce qui vient d'ailleurs. De ce qui vient d'ailleurs et qui peut éventuellement être gênant. Alors on fait tout un travail collectif actuellement avec l'équipe de Migre Europe et de Migre Inter sur la signification de la flèche comme la symbolique fantasmagorique de l'invasion de l'Europe. Mais ce n'est pas nouveau, parce que déjà dans les années 30, quand on faisait des cartes ethno-linguistiques de l'Europe, comme celle-ci, qui est tirée d'un atlas allemand nazi, on trouve une seule flèche sur cette carte de déplacement de population, et c'est la flèche qui indique l'apport de population exogène qui vient d'Afrique. Donc purement de manipulation. On va y revenir. Moi, je voudrais vous emmener donc pour cette dernière présentation dans un univers cartographique un peu plus émotionnel, peut-être un peu plus sensible, et essayer de voir la cartographie du côté de la perception, c'est-à-dire du côté de ceux qui la reçoivent. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on réalise aujourd'hui la portée des très très profonds changements qui sont à notre disposition. On voit bien à travers ce que vous avez dit, à travers des expériences, que ça bouge, qu'on cherche. Et vous deux dit, on n'est pas sûr qu'on a raison, on n'a pas de solution, mais c'est très heureux que vous n'ayez pas de réponse ni de solution, puisque on est vraiment dans le monde de la recherche et de l'expérimentation, et on continue. Il y a un bouleversement énorme qui fait qu'on est aujourd'hui un peu perdu. Il y a une ouverture, il y a une immense disponibilité, une immense accessibilité très nouvelle aux données et aux outils. Et depuis quelques années, en tant que géographe, cartographe, praticien, eh bien, depuis 2-3 ans, depuis 3-4 ans, je fais face à une difficulté, je dois avouer, qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Dans un travail de recherche ou de création cartographique, ou simplement graphique, au sens visualisation des données, parce qu'on n'est pas seulement dans la carte, comment faire pour tenir compte de tout ce qui existe, de toutes les expériences, les expérimentations, de l'état de l'art, de toutes les informations qui sont désormais disponibles, des nouvelles possibilités techniques, suivre de près l'apparition des nouvelles bases de données qui naissent, qui sont ouvertes, qui apparaissent, l'évolution des progrès technologiques, les nouveaux outils, les logiciels qui sortent tous les jours et qu'on utilise pour produire des images cartographiques. Et tout ça, évidemment, littéralement explosé, ça part dans tous les sens, ça se développe, ça se multiplie à perte de vue, et on a du mal, tous, je pense, à garder le cap et à garder un peu le contrôle sur cette immensité du savoir, en même temps de l'information et de la technologie qui s'offre à nous. Alors, pour revenir sur ce que j'appelle souvent l'intention cartographique, l'intention du cartographe, comment garder le cap sur tout ça ? Garder le cap de l'intention cartographique et puis produire ensuite, à partir de ces données, bien sûr, nos propres visions, nos propres visualisations cartographiques, nos propres interprétations du monde. Des cartes qui nous disent quelque chose, qui nous parlent, qui éventuellement rendent visibles des éléments, des phénomènes, des tendances qui sont invisibles ou peu visibles dans les données ou à l'œil nu. En gros, qui montrent les tendances du monde et je vais y revenir, qui nous permet éventuellement non seulement de figurer le monde, mais aussi de produire de la connaissance. Alors pour ce qui me concerne, c'est une expression très systémique, évidemment. parce que tout est en relation avec tout, et un petit peu pour utiliser une métaphore cartographique, quand on produit une carte complexe avec plein d'éléments, et que cette carte est touffue, si on bouge un élément, le mouvement de cet élément a un impact sur les éléments aux alentours, qu'on doit éventuellement bouger. Et quand on bouge ces éléments alentours, eh bien, ce mouvement a aussi un impact sur le reste, etc. Ce qui revient à dire que bien souvent, quand on ajuste ou quand on affine formellement dans la forme une carte et qu'on veut faire le travail de manière très précise, eh bien, le fait de bouger un élément, bien souvent, revient à recomposer la totalité de la carte. Et c'est ce qui est un petit peu en train de se passer aujourd'hui avec cette évolution dont on perçoit mal les contours. Alors, on va essayer de voir ce système de création cartographique en quatre dimensions, donc quelque chose de très systémique. L'intention cartographique, donc, de l'idée aux données, la feuille blanche aux données, et des données à la représentation visuelle. Comment maîtriser, par ailleurs, l'immense corpus des données-informations auxquelles nous pouvons aujourd'hui accéder. J'en découvre tous les jours des nouveaux. On parle de big data, elles sont de plus en plus accessibles, de plus en plus gratuites. La seule limitation qu'on a, c'est notre compétence, c'est que bien souvent, on n'a pas la compétence d'exploiter ces données, donc elles sont disponibles, mais elles ne sont pas accessibles, simplement parce qu'on ne peut pas nécessairement en faire, ou beaucoup de gens qui font de la cartographie n'ont pas les moyens techniques personnels, ou n'ont pas le réseau pour pouvoir exploiter ces immenses bases de données qui pourtant sont là et qui sont disponibles. D'où l'intérêt, naturellement, de travailler en groupe et en réseau. Par ailleurs aussi, comment inventer les moyens sémiologiques et sémantiques dont nous disposons pour exprimer nos idées et nos intentions, et puis comment utiliser les nouvelles possibilités technologiques qui sont aussi désormais abordables. Elles sont immenses, elles sont très puissantes et bien souvent très peu chères ou gratuites éventuellement. Donc il y a tous les éléments de la démarche classique qui permet la production dans les règles, et je mets dans les règles entre guillemets parce que j'aimerais qu'on rediscute de la question des règles en cartographie. On parle de sémiologie, on a une sémiologie graphique conceptualisée par Bertin, d'autres manuels, et la question de, voilà, on entend souvent il faut faire une carte qui ne ment pas ou qui dise la vérité ou qui est fidèle à la réalité, une carte qui est construite selon les règles de la sémiologie. Mais qu'est-ce que sont ces règles réellement? S'il en existe, il y a des corpus de règles, il y a des règles différentes en Norvège, en Angleterre, en France. Est-ce que certaines sont plus légitimes que d'autres? Parfois elles se correspondent, parfois elles sont en opposition. Et ça m'intéresse d'avoir un petit peu une réflexion sur qu'est-ce que c'est respecter les règles en cartographie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors je ne vais pas donner une réponse définitive, mais je voudrais bien qu'on en discute après. Et par ailleurs, je ne sais pas, et je ne sais jamais à partir de quand une carte est et devient une production de savoir et de connaissance. En ce qu'elle fait apparaître un phénomène complètement inconnu. Alors bon, on a constitué un groupe informel de géographes, de cartographes, de mathématiciens, d'anthropologues, pour essayer de travailler sur ce qu'on va qualifier d'expérimentation cartographique, d'essayer de trouver, basé sur les cartes existantes, les cartes que l'on connaît, les cartes qu'on a faites, qui sont construites traditionnellement, techniques sur lesquelles on va essayer de rebondir pour aller plus loin. On est dans l'objet de la cartographie critique ou de la cartographie radicale, ou, qu'on a appelé aussi contre-cartographie ou cartographie participative. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un mouvement de cartographie qui rejette la cartographie thématique traditionnelle, mais au contraire qui part d'un état de l'art existant pour simplement rebondir dessus. C'est un petit peu la conclusion de l'article que Gilles Palski vient de publier sur Vision Carto, sur une analyse sur l'œuvre de Bertin et sur sa sémiologie graphique. Et Gilles termine en disant je ne suis pas sûr qu'il faille considérer cette sémiologie comme une fin en soi, comme une œuvre finalisée sur laquelle il faudrait croire comme une Bible, et peut-être s'en servir comme un matériau de départ, de base, comme des outils pour aller plus loin, pour rebondir sur la sémiologie graphique, pour essayer d'en prendre le meilleur et de voir ce qu'on peut faire avec les nouveaux outils aujourd'hui pour aller plus loin. Alors, sans revenir en détail sur toutes les fonctions de la carte, de repérage, espace dans le temps, fonction sociale, politique, etc. Moi, je voudrais juste citer deux qui peuplent quotidiennement ma vie de praticien. C'est sa fonction d'illustration et sa fonction de production du savoir. et il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais concentrer la réflexion sur ces deux fonctions. Alors, fonction d'illustration, je voudrais qu'on revienne dessus, parce que finalement on est là pour discuter de ce que sont ces cartes, éventuellement aller plus loin, de critiquer les cartes en rond proportionnel ou celles dont regorgent les ouvrages scolaires, les encyclopédies, la presse. Mais je ne suis pas sûr qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire avec cette fonction d'illustration. Et, illustration d'une carte, c'est-à-dire simplement représenter, figurer un savoir qui est déjà connu et décrit, c'est lui donner une forme et spatialiser. C'est une action qui se situe un peu en aval de la recherche, une mise en forme de concepts, d'approches, d'analyses déjà vraiment bien connues. C'est sans doute l'essentiel de la cartographie thématique classique telle que nous la connaissons. On parlait de cartes en rond proportionnel. On est là dans quelque chose qui est très, très connu. La cartographie au service du texte, en d'autres termes, et de la connaissance existante. Donc, c'est rien de déshonorant. L'essentiel de la cartographie scolaire et les processus d'élaboration et de production de ces cartes sont aussi très bien maîtrisés. On a les codes, on a la symbolique, on a la sémiologie. Alors on a des règles, on suit des règles. C'est pas toujours les mêmes pour tout le monde, mais on suit des règles et des techniques. Et on a même aussi, grâce à nos réseaux, un appareil critique assez efficace qui nous permet éventuellement de faire des progrès. Et ça n'est pas rien. Donc pour les émetteurs de la carte, tout va bien, la chaîne de fabrication est connue. Nous, on discute beaucoup entre nous. Mais par contre, pour les récepteurs, les destinataires de la carte, élèves, étudiants, grand public, qui reçoivent la carte et qui n'ont pas participé à son élaboration, la perception qu'ils en ont, leur réception de l'objet carte tel qu'ils la découvrent, c'est moins évident, c'est moins connu. Et je ne suis pas sûr qu'on se soit beaucoup intéressé au public utilisateur du point de vue de la manière dont ils reçoivent, dont ils perçoivent les cartes, s'ils apprennent des choses, si c'est un savoir qu'ils ont, voilà, qu'ils intègrent, qu'ils prennent pour eux. Et j'ai souvent le sentiment qu'on considère le public utilisateur plutôt comme des clients potentiels susceptibles de consommer la carte. En d'autres termes, de l'acheter. Voilà, on produit des cartes, on produit des atlas, et on est toujours intéressé que ces atlas se vendent. Alors, comme je ne suis pas sûr qu'on ait porté beaucoup d'attention à la manière réelle dont l'expression cartographique est reçue par le public, et en particulier pour les élèves, ça soulève toute une série de questions. Et je voudrais peut-être rapporter un peu l'expérience que j'ai d'avoir travaillé en lycée avec ces élèves, et poser les questions suivantes. D'abord, savent-ils apprécier la représentation cartographique d'un phénomène? Comment reçoivent-ils ces cartes? Se disent-ils qu'ils apprennent quelque chose? Est-ce qu'ils sont capables de détecter l'intention cartographique de l'auteur et ce qu'on veut leur dire, le message cartographique à travers cette cartographie scolaire? Et nous, en tant qu'enseignants, est-ce qu'on est capable réellement d'apprendre aux élèves à lire et à comprendre une carte comme on comprend un texte? Je voudrais faire ce rapport entre la carte et le texte, puisque on assume que les textes littéraires et les autres textes, c'est de la production de savoir et que ça sert à apprendre. Et je ne suis pas sûr que dans l'imaginaire et dans la tête des élèves, ce soit le cas. Donc, sur cette fonction très traditionnelle de la carte qui illustre des phénomènes déjà connus, je doute qu'on ait exploité la vraie richesse de cette cartographie. Alors, on peut revenir aussi sur quelque chose qui est relatif, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, mais encore faut-il définir qu'est-ce que c'est qu'une bonne carte, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise carte, est-ce que c'est une grille d'analyse qui est pertinente? Une carte doit-elle être belle? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est une grille d'analyse pertinente? Est-ce que c'est la bonne entrée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai le très fort sentiment que, en tout cas pour la cartographie scolaire et le type de cartographie encyclopédique du grand public, on a très très largement sous-consommé tout ce que cette cartographie très traditionnelle, à laquelle on a tous été confrontés, soit en tant que producteur, soit en tant que consommateur, et était vraiment exploitée. Et la deuxième fonction, c'est la fonction création de savoir. Est-ce qu'une carte peut être en elle-même de la création de savoir? C'est-à-dire plus seulement représenter de l'existant, que cet existant soit visible ou invisible, mais sortir de la production cartographique de son domaine essentiellement scientifique et de la considérer dans une autre émotion, dans une autre dimension, plus émotionnelle, plus humaine. D'ailleurs, vous avez remarqué, comme moi, que la carte manque d'humanité, donc j'aime bien penser que certains projets, certaines initiatives essayent de replacer l'être humain sur la carte. Cette carte en point, où chaque point représente un être humain, c'est quand même quelque chose qui est très symbolique. Je vais vous en présenter une autre. Ici. Et puis, par ailleurs, sur les cartes statistiques, ou sur les cartes choroplètes, ou sur ces cartes en surface, bien souvent, on va privilégier de manière beaucoup plus forte l'indicateur que la population qui est impactée par cet indicateur. Alors, j'ai sélectionné cette carte qui a été créée par quelqu'un qui n'est pas ni cartographe ni géographe, qui s'appelle Levi Westervelt, et qui se sert de la carte. On peut dire que c'est un cartographe critique ou un cartographe radical ou expérimental. Il va tordre la carte dans tous les sens, il va se servir de la carte pour exprimer sa colère. Alors, quand j'ai exprimé sa colère, ça veut dire, dans la fonction création de savoir, ma question ici, c'est de demander si on peut intégrer, donc sortir la carte de sa dimension scientifique qui fait de la représentation visuelle avec des données scientifiquement traitées, etc., mais d'y intégrer, outre de l'information qualitative et quantitative, de l'émotion, du sensible, de la colère, de la politique, de l'éthique, de la philosophie, de l'amour, de la révolte, si on est convaincu, bien sûr, que ces éléments très émotionnels sont des objets de recherche pertinents et légitimes dans le cadre de l'académie. C'est encore une question. Ça se fait, mais ça n'est pas nécessairement encore admis. Donc, ce que fait Levi Westervelt ici, avec sa carte, c'est qu'il a... Il va se dédouaner de tout ce que la cartographie, théoriquement, nous demande de faire. Déjà, il ne va pas du tout respecter la position géographique des pays des continents. Il va tordre tout ça. Il va écarter la Tunisie de l'Algérie, il va prendre la Turquie, il va la retourner, il va la remettre ici. Il ne s'intéresse pas du tout, en fait, à la réalité géographique. Il faut simplement qu'on reconnaisse un peu la forme des pays. Alors ici, je n'ai pas fait d'agrandissement, mais vous avez des bulles de points qui représentent, c'est une des nombreuses cartes qui a été créée dans la lignée Mourir aux portes de l'Europe, ce qui représente tous les migrants voyageurs qui meurent, qui se noient en essayant qui sont interdits de voyage par les voies traditionnelles normales, et qui se noient dans la Méditerranée. Chaque point ici représente une personne. On en a une version sur le site Vision Carto, vous pourrez la voir, on peut l'agrandir, cliquez sur un point et sur ce point va se défiler une petite vague bleue et vous aurez un deuxième niveau de lecture sur cette carte qui va raconter l'histoire très synthétisée de chacun de ces migrants, d'où il vient, comment il s'appelle, ce qu'il était. Alors il ne l'a pas fait pour tous, mais vous en avez bien une bonne centaine. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il se dédouane tellement de la forme des pays et il a tellement envie de remettre l'être humain au centre de la préoccupation de la carte que dans les pays... Alors, il représente normalement les pays qui sont les pays de départ, mais les pays d'arrivée, il les représente comme les migrants les voient quand ils sont sur les bateaux. C'est-à-dire, ils ne voient pas un continent, ils voient une ligne d'horizon. Et donc, il se dit, la vraie forme du pays, la forme réelle du pays, c'est la ligne d'horizon, et raison pour laquelle ici, la France, l'Europe, l'Italie, l'Espagne ne sont représentés que par un symbole linéaire, alors que normalement, ça devrait être une symbolique surfacique. Donc voilà... Un exemple parmi d'autres d'une nouvelle manière de cartographier le réel. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup penser la cartographie comme un dialogue entre l'imaginaire et le réel, qu'une carte est toujours basée naturellement sur des faits réels, mais dans laquelle on met, nous tous, beaucoup d'imaginaire. Et même dans une carte qu'on prétend très fidèle à la réalité, choroplète et basée sur des fonctions, sur des systèmes de production dit très scientifique, on y met aussi beaucoup d'imaginaire. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous faire un cours de carto pour vous rappeler. Pour vous rappeler comment on construit des points proportionnels. Vous voyez ici que quand on prend une série statistique simple, et qu'on applique une formule en changeant l'échelle des hauteurs, on a, pour la même série, une perception visuelle qui est complètement différente. Et pourtant, la carte est construite de manière scientifique, puisque j'ai bien utilisé les formules là-bas, avec une application qui est celle-ci, où, évidemment, ça va un petit peu vite. où la même carte avec la même série de chiffres est construite avec 5 paliers différents, et bien heureux celui qui pourra me dire quel est le bon choix, sur quel type de critères on va choisir d'avoir une échelle des hauteurs très élevée ou pas. Mais l'histoire qu'on va raconter, elle sera différente. Si on estime que 60 millions de réfugiés, c'est rien du tout et que c'est pas très très grave, peut-être il faut qu'on présente ça en tout petit. Et si on estime que 60 millions de personnes qui sont pas chez elles et qui sont forcées de partir et de voyager, c'est un drame universel, de le rendre très spectaculaire, peut-être pour mieux faire apparaître les réseaux, d'avoir des cercles plus gros. Mais la décision, c'est pas une décision scientifique, c'est une décision personnelle, éthique, politique. Ça fait partie de l'intention cartographique, c'est-à-dire que le choix même de l'importance de ces symboles, elle est complètement émotionnelle, et à mon avis elle relève d'une décision qui est une décision politique. Donc voilà, alors cette dimension sensible de la carte, c'est un champ de recherche ouvert et encore très très peu défriché, même si des équipes au sein de l'université commencent à s'y intéresser, cartographie sensible, qui permet l'utilisation de nombreux autres moyens que le crayon de couleur pour la production ou que les logiciels de dessin. Et ce sera peut-être ces expérimentations que je vais appeler carto artistique. C'est en même temps, voilà, c'est une cartographie qui fait. La cartographie, c'est du dessin, donc ça a fait appel nécessairement aux moyens de l'art. Carto artistique, les moyens de l'art, mais plus que le dessin, les matériaux, les textures, les fragrances, les tissus, la pierre, le bois, le métal. Voilà, on a aussi ces expériences qui nous permettent de précipiter la carte et de montrer la carte sous un effet et sous des aspects qui sont quand même bien différents. Alors, pour terminer, je voudrais juste vous montrer deux exemples. Le premier, c'est un exemple du 19e siècle. Gilles a montré un certain nombre de cartes qui sont des cartes thématiques, choroplètes, statistiques, qui naturellement n'ont pas été inventées par Bertin ni par nous-mêmes, mais qui ont été inventées il y a 200 ans. Il y a 150 ans, ça date des années de 1870, donc c'est à peu près un siècle et demi. Il y a un siècle et demi, il y a eu tout un mouvement utopiste de gens qui ont écrit des textes et dessiné des cartes utopiques, dont un en particulier, qui est un inconnu au bataillon, pour lequel on n'a absolument aucune biographie, mais c'est, voilà aussi un champ de recherche ouvert. Il s'appelle Henri Dron. Et il laisse à la Bibliothèque nationale un petit peu, mais surtout à la British Library, parce que la Bibliothèque nationale, c'est un utopiste un peu anarchiste, et la Bibliothèque nationale n'a apparemment pas accepté les dépôts qu'il a fait de sa propre maison d'édition, une production de cartes qui sont des cartes utopiques et qui sont radicalement des cartes géopolitiques, des cartes de prospective des années 70 de ce qu'est l'Europe. Là, ici, cette fameuse carte de l'Europe des points noirs, elle n'est pas visible encore sur notre site, elle est un petit peu visible sur Gallica, vous pourrez aller la voir, et faire de l'histoire, en fait, avec cette carte. Et la dernière carte, enfin le dernier graphique, les deux derniers graphiques que je voudrais vous montrer, font référence à un projet qui s'appelle Géographie du vide, Géographie du plein, et donc qui fait partie de ces expérimentations pour lesquelles on essaye de visualiser. Alors c'est un peu difficile à conceptualiser, à visualiser quelque chose qu'on sait bien, quelque chose qu'on connaît, mais dont on a du mal à estimer les valeurs, les volumes ou les écarts. Donc géographie du vide, géographie du plein, ça fait référence par exemple à un monde qui est pauvre et un monde qui est riche. Donc on sait tous qu'il y a des pauvres, on sait tous qu'il y a des riches, mais je pense que personne n'a réussi encore à vraiment visualiser quel est l'écart entre la pauvreté et la richesse. Quand je parlais du visible et de l'invisible tout à l'heure, c'est vrai que dans la cartographie classique, et c'est utile, c'est important qu'on l'ait, les mouvements de pétroliers entre le Golfe, l'Amérique du Nord et l'Europe ou le Japon, ben c'est important avec ces flux proportionnels. On connaît tous cette carte, et c'est une carte qui est intéressante, qui dit quelque chose, mais finalement, dans la cartographie expérimentale ou radicale, peut-être on peut aller plus loin et on peut essayer de trouver un mode de représentation qui va montrer que les chargements des 200 000 tonnes de pétrole d'un pétrolier peut être revendu jusqu'à 60 fois entre le moment où il va partir de Koweït et arriver à Rotterdam par des sociétés placées dans des paradis fiscaux à Zoug ou dans les Caraïbes. Que ces bateaux peuvent mouiller au large de Rotterdam pendant 3 semaines en attendant que les cours remontent. Voilà. Il y a ici aussi tout un corpus statistique et des informations qui sont totalement invisibles à l'œil nu, qui ne sont pas cartographiées et qui représentent aussi un champ de recherche. Pour la géographie du vide et la géographie du plein, c'est un petit peu pareil. C'est 10h52, c'est l'heure. Hein. Bon, je vais juste vous montrer celui-là, simplement parce que par rapport à ces figures tout à fait spectaculaires, qui bougent dans tous les sens, qui font appel à la big data, où on va visualiser et cartographier des tableaux statistiques qui peuvent faire des millions de cellules, je veux aussi montrer que, en reprenant un indicateur archi ultra classique, ici c'est le PNB par habitant et par an, et en faisant un petit traitement statistique qui n'est pas nécessairement fait par le FMI ou la Banque mondiale, eh bien, on peut aussi créer des documents qui ne sont pas des fins en soi, des graphiques ou des cartes qui ne sont pas des fins en soi, mais qui peuvent être des outils et des bases pour ouvrir un débat sur une question en particulier. Ici, le développement. Alors, si vous regardez ces deux figures du haut, en particulier, elles représentent par année, entre 1970 et 2010, à peu près, 2015, le PNB par habitant, à gauche, en rouge, pour le milliard d'habitants le plus riche de la planète, et de l'autre côté, pour le milliard d'habitants le plus pauvre de la planète. Donc j'ai simplement pris ce PNB, j'ai pris la liste des pays, et j'ai regroupé tous les pays, ça représente à peu près une quarantaine pour les plus riches, jusqu'à arriver à 1 milliard d'habitants, parce que je voulais que ce soit comparable, que ce soit une échelle commune, et de prendre le milliard d'habitants en partant du bas de la série, pour représenter un document qui va représenter le vide. Alors bien sûr, la première critique, c'est de dire, mais en fait, ça sert à rien, parce que dans la carte, dans la graphique droite, on voit rien. On voit rien, on voit pas les écarts. Mais c'est justement ce vide qui m'intéresse, et c'est sur ce vide que j'ai envie de rebondir et d'élaborer d'autres documents. Et c'est en ça que j'aime aussi à penser le traitement statistique simple d'indicateurs qui sont tout à fait accessibles, qu'on peut montrer, c'est-à-dire on peut très bien les utiliser sans montrer ça du tout, en montrant autre chose, en prenant un pays ou deux, mais on ne le montrera pas de manière aussi universelle. Alors évidemment, j'avais d'autres choses à vous montrer, mais on va s'arrêter là, et puis le reste est visible sur la carte, sur le site d'accès gratuitement.
Il y a des questions spécifiques pour vous permettre de répondre. Donc des questions spécifiques, merci. Des questions spécifiques sur la présentation ?
Au début de ta présentation, tu as parlé de règles sémiologiques qui sont parfois similaires dans certains pays et des fois en opposition. Tu as un exemple de ça, de règles d'opposition dans différents pays ?
Alors oui, c'est sur la forme et sur les couleurs. Il y a des pays. C'est sur la forme et sur les couleurs. Mais là, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que. N'oublions pas que la cartographie thématique telle que nous la pratiquons, c'est vraiment une spécificité de certains pays. On a une école en France, ça c'est indéniable. Il y a une école en Hollande. Et même pas en Allemagne, je crois. Les vraies écoles de cartographie, c'est ces deux pays, peut-être un peu en Italie, puisqu'il y a Agostini, en Allemagne, puisqu'ils ont aussi fait ces atlas qui sont basés sur, bien sûr, des codes sémiologiques, mais je pense que seuls les Hollandais et les Français ont vraiment développé ces codes. Je pense que dans les années 70, si mes souvenirs sont bons, mais peut-être je me trompe, il y a eu à Mexico une grande réunion internationale où les cartographes de toute la planète se sont réunis pour essayer de définir un corpus commun et réglé. Ils ne sont pas arrivés. Voilà. Après, il y a des. Alors, ça, c'est une chose. Il y a des pratiques cartographiques et parfois, c'est simplement je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est qu'il y a des pays, je pense à la Norvège où j'habite, où il n'y a pas d'école de cartographie, où simplement ils ont besoin de faire ces cartes et ils utilisent les moyens du bord. Voilà. Et peut-être quand on arrive chez ces éditeurs et quand on arrive à l'école pour dire peut-être on pourrait réorganiser ça de manière un petit peu différente, on a l'impression d'être un ovni qui arrive de je ne sais où, puisque pour eux c'est pas voilà, pour nous c'est une préoccupation. C'est, on a l'habitude de ces atlas, on a des pléthores d'atlas qui paraissent pratiquement toutes les semaines ici et qui sont aussi une spécificité. Donc il y a cet aspect qui joue et aussi qu'on sous-estime, c'est que bien souvent on produit de la cartographie comme on produit une illustration quelconque, en essayant plus ou moins de mettre des flèches, de représenter des trucs, mais sans qu'il y ait vraiment un langage. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, pour des codes qui sont en opposition, je pense à la cartographie anglaise, qui choisit toujours les couleurs que nous ne choisissons pas, mais c'est le monde anglo-saxon, et puis qui pense que les couleurs ont une autre signification. Le vert, c'est une couleur sacrée dans les pays arabes, c'est le pays de la nature pour la Norvège, c'est la couleur nationale pour l'Irlande. Le rouge exprime le danger, le bleu la paix, la pacification, la sérénité, mais on représente toujours l'OTAN en bleu, et l'OTAN est peut-être l'organisation militaire la plus brutale. Donc il y a des contradictions sur cette question d'utilisation des symboles.
Merci.
Merci.
On peut aussi ouvrir la discussion sur les autres présentations, sur celle-ci, ainsi que sur les deux...
Moi, je veux juste ajouter une chose, le temps que j'amène le micro là-bas, c'est que tout à l'heure tu disais, je ne sais pas ce qui est la sémiologie, ce qui est invariant, ce qui est variant, ce qui est... Je rebondis sur les histoires de culture, culturelle. En fait, dans la sémiologie, c'est pas un collègue sur la sémiologie, donc voilà, mais on a quand même vu que en matière de sémiologie, ce qui est invariant, c'est ce qui est tout le travail de Bertin sur les caractéristiques physiques de l'œil. Et ça, quelle que soit ta culture, c'est un peu invariant. Donc, quand tu veux représenter par des cercles proportionnels de l'ordre ou par des couleurs plus ou moins foncées, on verra de l'ordre. Donc ça, ça reste invariant. Après, effectivement, tu utilises du bleu ou du rouge, bon, ben, ça, c'est assez culturel.
Oui, oui, ça c'est d'accord.
Oui, c'est juste pour François Sermier, juste pour donner un exemple de contradiction sémiologique. On n'a pas besoin forcément de faire appel à des cultures étrangères. Dans le milieu de l'ingénierie, le problème entre le vert et le rouge était bien connu. Il a posé des gros problèmes dans les années 70, puisqu'effectivement, les électriciens, ça marche, c'est rouge, et pour les mécaniciens, ça marche, c'est vert. Et on avait, et quand on a conçu les premières centrales de contrôle, des centrales électriques, on avait ce problème qu'il y avait la moitié, pas forcément ordonnée d'ailleurs, des panneaux qui devaient être verts quand c'était bon, et la moitié des panneaux qui devaient être verts quand c'était bon. Donc c'est fini.
Sinon, moi, je vais poser une question, sinon, par rapport aux présentations, on a parlé sur la question à l'instant, au fond, non, question.
C'est justement à propos de cette question sémiologique. Je suis un vieux perfumiste qui n'a pas encore déchanté. Ce qui vient d'être dit est fondamental. Ce qui est de la perception et des organes de perception, ce n'est pas un choix. Mais ce qui est de la convention sur la représentation ou l'évocation peut être un objet d'un choix. Alors la question que je veux vous poser, c'est que dans vos différentes représentations, vous n'avez pas lié le produit au producteur, bien que vous ayez pensé qu'il faut bien voir derrière la production les intentions du producteur. Est-ce qu'on peut faire l'économie de l'intention une fois que les aspects techniques sont considérés comme partagés?
Merci.
Je ne sais pas qui s'adresse.
Vous
répondez ? Moi, rapidement.
Voilà.
Mais Si je comprends bien votre question, c'est sur est-ce que vous dites est-ce qu'on peut faire l'économie de l'intention ? Et j'ai pas l'impression qu'on fasse l'économie de l'intention cartographique. J'ai l'impression que l'intention cartographique, ce qu'on veut en dire ou le message qu'on veut transmettre, il est complètement au cœur de notre préoccupation. Ce que j'ai dit plus tôt, c'est que on est très bon pour discuter entre nous de la pertinence des paramètres, des indicateurs, des types de modes de représentation visuelle qu'on utilise, mais que je ne suis pas sûr qu'on se soit vraiment intéressé au récepteur de la carte, à celui qui l'utilise dans tout ce que ça a d'émotionnel et de question de création de connaissances et de savoir. Alors peut-être qu'il y a une chose dans ce que vous dites, c'est que on est un peu envahi, on est peut-être un petit peu aveuglé par la facilité avec laquelle on peut faire des cartes aujourd'hui, avec des outils qui se développent, qui sont faciles d'utiliser, qui sont extrêmement puissants, et que c'est peut-être d'une part un risque de paupérisation de la production cartographique, puisque ça va éventuellement, on prend le risque de la standardiser, puisqu'on utilise tous les mêmes outils, les mêmes bibliothèques de symboles, etc. Ça c'est une chose, et que d'autre part, fasciné par la technologie, fasciné par la facilité avec laquelle on va créer un environnement graphique complètement spectaculaire, d'oublier qu'on a aussi à dire quelque chose. Dans une des cartes que Karine a montrées à la fin, c'est très prégnant cette idée, c'est très impressionnant, c'est beau, ça bouge, mais une fois qu'on a fermé les yeux, est-ce qu'on a appris quelque chose, est-ce qu'on en retient ? En tout cas, dans le travail que je fais quotidiennement, c'est quelque chose qui est tout à fait au cœur de ma préoccupation. Mais cela dit, je suis quand même intéressé par ces cartes très complexes, par ces cartes qui bougent. On a l'occasion tous les jours dans notre réseau informel de discussion de se révolter ou de s'affliger de certaines productions cartographiques aussi très impressionnantes, très spectaculaires, ou des figures avec des singes qui montent sur les colonnes, et c'est très rigolo. Mais au bout du compte, est-ce que c'est de la production de savoir ? Est-ce qu'on apprend quelque chose ? Et qu'est-ce qu'on en retient ? Donc voilà comment je pourrais répondre si vous voulez rajouter quelque chose.
Moi, je voudrais juste rajouter sur l'intention, mais c'est plutôt un point de vigilance à tous les cartographes qui peuvent l'entendre, c'est qu'on a tendance à ne pas signer nos cartes, soit l'institution, soit même le cartographe, alors que pourtant, il y a vraiment des intentions. Les cartographes ne sont pas toujours légitimes. Se cachent derrière des mentions ou on les cache parce que souvent ils sont relayés au fin de la soupe de l'ours, donc éventuellement ils sont mis sur des ouvrages s'ils sont cités. Alors que pourtant c'est une vraie prendre vigilance à avoir si c'est des cartes de production de connaissances, au même titre que le texte, ils doivent montrer leur intention et c'est ce qui expliquera aussi certaines prises de position. C'est intéressant de savoir qui l'a fait. Et on fait bien en histoire, on fait attention à les citer, mais les cartographes contemporains, on a tendance à les oublier, et c'est vraiment dommage.
Moi, je voulais revenir sur ta première phrase, mais du coup, qui va aussi dans le sens, qui était « le cartographe doit garder le cap ». Alors, ça veut dire « le cartographe doit garder le cap », parce que les évolutions, elles sont depuis longtemps. Alors, est-ce que ça renvoie pas au fait qu'il y a un côté éphémère à cette production, qui n'y a sans doute pas, parce que ça, quand on voit toutes ces cartes qui reviennent, qui sont quand même, il y a des cartes emblématiques, et est-ce que ça veut dire quoi garder le cap j'imagine dans deux institutions, je pense à Karine et toi, complètement différentes, est-ce que ça se ressent?
Oui, je peux. Alors, il faut peut-être. Je suis passé un peu rapidement sur le concept garder le cap. C'est une expression. Garder le cap, ça ne veut pas dire rester sur sa trace et ne pas bouger de sa trace et ignorer ce qui se fait à gauche et à droite. Je voulais plutôt dire le contraire, en fait. Garder le cap, ça veut dire comment embrasser. On est des êtres humains faillibles, on a besoin de dormir, les journées ne font que 24 heures. Comment faire pour embrasser l'immensité de ce qui nous est offert quotidiennement à travers les réseaux, à travers nos listes et à travers les créations quotidiennes d'applications, de logiciels, de mise à disposition de bases de données. Je l'ai dit, c'était plutôt ça l'idée. Pour une raison, c'est que, à mon avis, pour pouvoir bien traiter un sujet, c'est toujours bien, c'est une méthode, une approche académique, c'est de savoir ce qui se fait ailleurs, quel est l'état de l'art sur une question. Moi, j'ai une anecdote. Avec mon ami et collègue Philippe Rivière qui est ici, on va gérer, on co-anime ce site Vision Cartoé. On a des centaines et des centaines de dossiers qu'on aimerait mettre en ligne, qu'on aimerait beaucoup mettre à la disposition du public. on n'est que deux ou quatre, à la limite, on pourrait le faire si c'était deux heures de travail. On se dit, ça, c'est facile, tiens, on va faire quelque chose sur les brevets. Alors, on ressort ce qu'on a sur les brevets, on a du matériau, ça dort dans les archives, c'est dommage, ça pourrait être à la disposition du public, il y a plein de gens qui pourraient s'en servir. Et quand on creuse pour vérifier la validité de ce qu'on a produit il y a un an, eh bien, on va trouver tellement d'informations, tellement de documents, c'est le syndrome de la thèse. Et on se dit, non, finalement, on ne va pas publier parce qu'il faut qu'on travaille sur cet objet et puis qu'on essaye de voir un petit peu ce qui s'est fait ailleurs. Et du coup, on ne publie pas. C'est plutôt ça l'idée. C'est comment garder le contrôle de ce qui se fait quotidiennement. Et pour ça, je pense qu'il y a aussi un champ de recherche. Il y a à créer des outils d'agrégation qui permettraient de ne rien rater. Et moi, personnellement, je trouve un peu idiot de refaire des choses qui se font ailleurs. Mais on n'a pas une visibilité sur tout. Et parfois, on a l'impression que les gens ont l'impression d'être plagiés parce qu'il y a des initiatives parallèles qui arrivent au même résultat graphique. Mais en fait, ce n'est pas du tout du plagiat, c'est simplement que des équipes ont travaillé sur des... voilà. Après, peut-être il y a des inspirations, mais bon, trouver la limite ou la frontière entre ce qui est de l'inspiration et ce qui est du plagiat ou de la reprise, ça c'est une autre question, et c'est plus compliqué. Donc, pour moi, garder le cap, c'est ça. Et de mon expérience quotidienne de praticien, je pense que depuis quelques années, cette espèce d'ouverture, cet afflux absolument énorme, cette vague, je ne sais pas comment dire, ce tsunami, me déstabilise en tant que praticien et rend mon métier plus compliqué qu'il n'a été auparavant. Simplement par cette immensité de disponibilité. Et parfois, je m'afflige moi-même en pensant qu'il y a des bases de données que je ne suis pas capable de traiter parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Donc voilà plutôt l'idée de garder le cap. Comment garder... j'aurais dû dire comment garder la tête au-dessus de l'eau, peut-être. Ouais. Hein, tu vois, c'est plutôt ça.
Merci. Peut-être la dernière question avant la pause.
Moi, c'est pas une question, c'est peut-être juste un point de synthèse ou une remarque que je voudrais faire, parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai notées qui m'ont fait réagir et qui font écho chez plusieurs présentations qu'on a vues jusqu'à présent. Moi, ça me fait assez plaisir, on va le dire comme ça, on va rester dans l'émotion, de voir que, et dans la sensation, que justement, il y a plusieurs choses qui ont été dites ce matin. Il y a l'idée de dépasser la sémiologie graphique, comme quoi ça pouvait standardiser et peut-être bloquer un petit peu les choses. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, peut-être que d'autres parmi nous ici l'ont fait aussi, c'est que le fait que Bertin ait publié une telle somme avec son équipe, mais c'est lui qui a coordonné, mais a publié une telle somme à un moment donné, ça a peut-être aussi laminé toutes les tentatives d'essayer d'aller plus loin et de faire mieux, de faire différent. On s'en relève peut-être que seulement maintenant, avec quelques travaux ici et là qui essayent, avec les nouveaux outils, de faire bouger les choses. L'autre remarque que je voudrais faire, c'est que de plus en plus, on s'intéresse non plus aux producteurs, aux méthodes, aux outils, mais aux récepteurs. Au sens où le récepteur, il a certaines capacités de réception, c'est-à-dire que le lecteur de la carte, il a une certaine façon de voir les choses. Mais on va aussi essayer d'aller un petit peu plus loin de plus en plus en disant que on parle de création du sens, mais il y a aussi la création du sens, elle n'est pas simplement chez le cartographe, elle est chez le lecteur de la carte qui va se créer le sens à partir de ses propres connaissances et d'après ce qu'il comprend de la carte. Donc là, il y a tout un domaine qui est en fait de la sémiologie. La sémiologie, elle ne s'est pas arrêtée avec Bertin en 67 avec la sémiologie graphique. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en sémiologie visuelle qui nous permettent notamment de faire des passerelles avec l'art, avec la critique d'art, avec l'histoire de l'art dont on a déjà parlé. Là aussi, c'est un point que je relève, c'est qu'on parle aussi d'aller chercher des manières de faire ressortir de l'émotion, de la sensation chez le lecteur de la carte. Et pour ça, il n'y a pas d'outils techniques informatiques qui permettraient automatiquement de créer des choses, mais il y a des expériences et il y a des idées qu'on peut aller chercher en essayant de mettre en place une espèce de critique systématique un peu organisée de... c'est un peu ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire qu'on a repéré des éléments, on a retrouvé des choses, des cartes qui nous plaisent, qui montrent bien ça, mais peut-être pas bien ça, etc. Et le fait de pouvoir rassembler un petit peu toute cette expérience-là, je pense que ça va nous faire progresser aussi dans cette direction-là.
Merci. Donc, il y avait deux autres questions.
J'avais une question plutôt pratique, en fait, par rapport, mais ça peut s'adresser aussi à l'ensemble des intervenants concernant le CGNT. C'est en fait par rapport à toutes les innovations en fait, qui ont été présentées dans votre intervention. J'essaie de me placer en fait, du côté du décideur et de sa perception en fait. Par rapport à toutes ces innovations-là, en fait, comment vous, dans vos travaux, et si peut-être vous l'avez déjà déjà réalisé, c'est comment constituer des outils de cartographie d'aide à la décision à partir en fait de ces innovations. Je vais prendre en fait un exemple par rapport au département de la Seine-Saint-Denis. Je m'étais amusé en fait à faire une cartographie en anamorphose des densités de la population et de faire varier en fait les communes pour avoir les premières réactions en fait d'un public profane, parce qu'on est ici un peu spécialiste et on a des éléments voilà, culturels, etc. pour comprendre la carte. Et les réactions étaient un peu mitigées, ça perturbe pas mal les sens, etc. Et du coup, en fait, c'est comment vous, en fait, dans votre structure, vous essayez d'introduire un peu d'innovation sans trop perturber les sens.
Alors, c'est un vaste sujet. Il faut repérer un allié, c'est-à-dire un décideur, quel qu'il soit, de l'administration ou du politique, qui est sensible à cet objet. Et alors, nous, on travaille beaucoup sur les territoires, mais c'est pas pour ça qu'ils sont tous familiers de la Terre, plus ou moins. Mais si on repère quelqu'un qui a un allié, donc on en a généralement un chaque année, plus ou moins bien placé, déjà, ça va être beaucoup plus facile. Donc, il faut le trouver. Ça peut être le maire, les conseillers, les ministres même, qui peuvent être intéressés par cet objet-là. Ça, c'est le premier point. Après, c'est de la pédagogie, mais on est tous amenés à le faire. Et après, c'est une perturbation par étapes. Sinon, ça perturbe. Le premier cartogramme qu'on a fait, il n'y a pas loin de 10 ans, qui a été publié par la Data, c'était très compliqué. Ça faisait disparaître des territoires pour une administration qui faisait travailler sur les territoires. Le Sénat, il est encore en travers. Mais c'est pas grave. C'était quelqu'un qui le portait et petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. Et puis, en fait, après, il faut trouver un deuxième allié. C'est un médiateur extérieur, des chercheurs, de la presse. Dès qu'on a une légitimité extérieure, ça marche aussi très bien. Ils veulent quelque chose qui ressemble à. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler toujours un peu, pas que en interne, parce que sinon on se noie, et même pas que parce que c'est des non-experts, on se noie dans notre doctrine administrative, etc. etc. On se parle à nous-mêmes, mais d'aller chercher des gens à l'extérieur qui vont donner des idées et qui vont faire en sorte que c'est pas que le carton noir qui a une lubie, mais qu'en fait c'est infusé, ça a un sens. Donc des porteurs internes, externes, de la pédagogie, et puis pas trop de perturbations non plus, sinon il faut y aller doucement. Et je pense que l'enjeu c'est les écoles. Là ça va. Clairement les cartogrammes sont très présents maintenant dans les manuels scolaires et c'est aussi ça qui fait que ça a un sens maintenant. Et pour les flux, le travail avec la pédagogie de l'enseignant à tous les niveaux va infuser si on pense que c'est ça qu'il faut faire. Après, c'est à nous de chercheurs en sciences sociales de se poser cette question-là, mais ça va infuser aussi énormément. C'est juste un peu long, mais c'est pas grave.
Merci. Une dernière question.
C'est pas garanti, la dernière parce que les questions ont eu dans les manuels scolaires.
La carte régionale d'avant aussi.
Oui, je m'étais peut-être mal fait comprendre tout à l'heure, Gilles. Quand je parlais de corématique, c'était pas pour poser ici en défenseur de ce mouvement qui a eu maintenant quasiment disparu de la surface de la planète.
Mais non, il faut lire maintenant.
Parce que ici, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cartes, de données. Après, il faut les interpréter, les cartes, il faut les comprendre, il faut les faire parler.
Les trois, les deux derniers.
Des cartes. Et souvent, on a besoin de plus d'une carte pour traiter d'un phénomène ou pour faire le tour d'une question. Donc, pourquoi Roger Brené a proposé la corématique? C'est justement pour synthétiser l'information et raccrocher les cartes thématiques, si on peut appeler ça comme ça, les synthétiser, les mettre ensemble, les croiser pour obtenir quelque chose de synthétique qui donne en une image l'état d'un territoire ou les dynamiques d'un territoire, même les deux. Le problème, c'est que autour de Brunet, à l'époque, il y a eu un noyau dur qui a compris un peu avec le gourou, qui a compris la méthode ou l'esprit de la chose. Mais après, ça s'est un peu perdu dans la nature. Et ceux qui ont voulu en faire n'avaient pas forcément les clés méthodologiques dans les mains pour faire, on va dire, de la bonne corématique. Et c'est devenu tout de suite, ça s'est dévoyé, c'est devenu des croquis. Et on sait bien que le croquis, en général, c'est souvent mal fait et c'est souvent pas du tout justement au service d'une bonne compréhension. Au contraire, ça affaiblit ou ça perturbe énormément et la sémiologie disparaît, etc. Alors que Brunet avait réussi à trouver un équilibre entre la sémiologie et la synthèse. Donc est-ce que ça, c'est à l'ordre du jour encore maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit abandonner? Parce que sinon, on va se retrouver avec des milliers de cas. Et qui fera la synthèse? Et comment?
Alors, quand la sémiologie a été éditée, la sémiologie graphique de Bertin, en fait, Bertin se moquait des cartes de synthèse régionale, hein, des fameuses cartes de synthèse régionale des géographes, parce qu'elles étaient extrêmement compliquées et, selon lui, illisibles. Hein. Et en fait, après la publication de la sémio, il propose de construire des images, entre guillemets, hein, selon au sens de Bertin, c'est-à-dire, en fait, des cartes univariées, finalement, hein, montrant qu'une seule variable à la fois pour qu'elle soit efficace. Hein. Et l'un de ceux qui va faire un compte-rendu de la sémiologie, c'est Brunet. Alors, il me semble que c'est dans la revue géographique de l'Est. Hein. Et Brunet, on dit oui, c'est très bien tout ça, etc. Mais à la fin, il termine en disant oui, mais que devient la synthèse géographique? C'est-à-dire que cette cartographie qui vise l'efficacité et le message, c'est justement, enfin, c'est comment dire, c'est le signe que cartographie et géographie sont des disciplines différentes, hein, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Elles ont longtemps été associées dans l'université, mais à tort quelque part, parce que Brunet essaye de créer son langage chorématique, en fait, pour créer un langage de géographe, hein, qui soit justement spécifique, qui reflète des préoccupations de géographe. Ce qui n'était pas du tout la visée de Bertin, parce que Bertin, lui, il crée une cartographie, enfin, avec la sémiologie, il envisage un langage qui serve toutes les disciplines et qui repose sur l'efficacité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des contradictions là-dedans. Et ça m'amuse que tu revendiques encore cette synthèse. Parce que c'est vrai que, bon, il est peut-être possible de faire des cartes illisibles mais synthétiques. Oui. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que les modèles chorématiques sont souvent très surchargés et illisibles.
Hein? Est-ce que c'est une carte?
Non, alors justement, c'est un modèle, donc c'est autre chose.
Donc la question de... Donc on va peut-être...
Je ne sais pas, peut-être arrêter. Que... Alors, ceci dit, alors, je voulais on quand même dire, ce que, juste comme soufflait Laurent, c'est que les chorèmes ne sont pas morts. Hein. Il y en a quand même encore assez souvent dans les colonnes de MapMonde, et il y a quelques auteurs qui s'y consacrent encore.
Un modèle, c'est beaucoup plus dur que d'appuyer sur un bouton, donc c'est pour ça que les gens y vont reculons et disent que c'est nul la chorématique. Il faut faire beaucoup d'efforts pour se casser la tête.
Bien entendu. Alors, faut pas oublier que... Non, mais faut pas oublier que chez Brunet, effectivement, chez Brunet, l'image, le modèle est le résultat d'un processus de réflexion sur l'espace, pour en dégager les aspects, tandis qu'effectivement, quand on donne le modèle tout seul, ça ne veut rien dire. Quoi.
Oui, bien sûr, ça ne veut rien dire.
C'est une construction intellectuelle. Non, j'ai dit que je n'intervenais pas.
Bon, alors, il y en a qui veulent intervenir, mais si on veut une pause, la journée n'est pas terminée, donc on propose une pause de 10 minutes avant la journée.
C'est la Karine Jou.
Il y aura une salle de remède, de passement sur la place. Merci à tous. Donc il y a du café sur le...